Et bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM, il est 11h15, 11h15 passé de 2 minutes pour être tout à fait précis. Et comme je vous le disais en début de ce Margot matin, aujourd'hui deux invités en studio avec moi pour mon premier direct avec des invités en studio depuis le début du déconfinement, donc depuis le 11 mai au moins. Deux invités un peu spéciales, deux invités que je vais tutoyer parce que je les connais quand même relativement bien. Bonjour Camille Bordier.
Bonjour Margot Labarthe.
Ah voilà, ça y est, je t'entends. Bonjour Emma Candice Labarthe.
Bonjour.
J'ai voulu vous inviter toutes les deux en studio ce matin parce que vous avez des choses en commun, notamment l'art et les études. Parce que Camille, toi tu es professeure d'éducation socioculturelle au lycée professionnel agricole de Mugron et de Sabre.
Tout à fait.
Merci. Et toi Emma, tu es étudiante en troisième année aux Beaux-Arts.
Oui.
Voilà, merci de confirmer aussi. Et donc, je trouvais assez intéressant de faire un parallèle ce matin entre une professeure et une élève dont l'art est au centre des parcours. Alors, je sais qu'on est déconfiné depuis plus d'un mois maintenant et qu'on a envie d'aller dans ce sens et on y va. Mais le caractère surréaliste et exceptionnel de ces 55 jours confinés m'autorise, je pense, à vous demander comment s'est passé votre confinement à vous. Avez-vous pu poursuivre pour l'une et suivre pour l'autre vos enseignements? Avez-vous été accompagné? Avez-vous trouvé un rythme de travail facilement? Je ne sais pas qui veut commencer.
Moi, je vais commencer. Vas-y. Alors, moi, du coup, je suis étudiante en troisième année, comme tu le disais. Et donc, en fait, qui dit troisième année dit diplôme. Et donc, un diplôme en art, normalement, c'est tout le temps en présentiel avec un jury composé de trois personnes qui est là pour avoir une discussion, pour avoir un échange en fait. Et un diplôme d'art, ça réside, enfin le fait qu'il soit délivré, ça réside beaucoup dans l'échange qui a lieu en fait pendant le diplôme, quoi. Donc là, c'est vrai que ça nous a enlevé cette facilité-là, enfin cet aspect-là, et on a dû avoir un diplôme dématérialisé que.
Parce moi, qu'en fait, t'as passé tes 55 jours de confinement, toi, à préparer ce diplôme finalement, qui était censé avoir lieu en juin.
Ouais, enfin, c'est venu dans un second temps, parce que dans un premier temps, en fait, on pensait qu'on allait être déconfiné et passer notre diplôme en présentiel. Et en fait, ça a été complètement surréaliste quand on a appris que, en fait, on allait avoir un diplôme d'art dématérialisé. On allait devoir rendre trois formes au lieu d'une, qui est une forme d'accrochage d'art des pièces qu'on a fait pendant l'année, pendant nos trois ans d'études. Et voilà. Et en fait, on a dû rendre, plutôt que prévu, trois pièces, enfin, trois formes différentes pour pouvoir prétendre au diplôme. Et sans rencontre avec les gens, sans rien de tout ça, quoi. Donc dans l'art, c'est assez compliqué quand même. Enfin, moi, j'estime en tout cas, surtout en troisième année, enfin, encore en études d'art, c'est compliqué ce genre de format. Mais bon, voilà, ça ouvre à de nouvelles formes, à de nouvelles possibilités. Et puis à un futur dans l'art, quoi, aussi, hein, qui est celui-là.
Et pour moi, c'était quoi la question déjà? Non, le confinement, oui, alors ça a été, évidemment, pour nous aussi, ça a été un vrai bouleversement. Hein, ça invite à revoir complètement nos pratiques pédagogiques. Moi, je vais contextualiser un tout petit peu parce que ma matière, les gens la connaissent peu. Mais disons qu'effectivement, j'ai un lien avec l'art puisque l'objectif de ma matière, l'éducation socioculturelle, c'est de donner des clés de compréhension et d'appréciation d'un peu toute forme d'expression artistique aux élèves. Et c'est une matière d'enseignement général qu'on retrouve dans toutes les filières. Donc j'ai des élèves de la 3e à la terminale, ça va même jusqu'au BTS pour certains. Et on est beaucoup sur de la pédagogie de projet. On travaille avec des structures culturelles, des artistes en résidence, etc. Et là, effectivement, de fait, le confinement et l'épidémie de Covid-19 a vraiment bouleversé la façon dont on fonctionnait. Et moi, à titre personnel, ça a remis beaucoup de choses en question puisque tous les projets que j'avais encore en cours se sont vus complètement annulés. Donc, il a fallu repenser les pratiques.
Et, carrément.
Ça a été un peu, oui, le saut dans le vide au début. C'était un peu flippant parce que j'avais des classes qui étaient en projet normalement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 4 de mes classes. Et il a fallu tout annuler et tout repenser en termes de contenu pédagogique pour 3 mois. Et évidemment, Immédiatement.
Oui, puis il y avait aussi toutes ces directives académiques qui changeaient,
bien sûr,
qui étaient revues quasiment quotidiennement.
C'est pareil, on parlait de diplôme, et je pense qu'on va en reparler plus tard, mais le bac, on a été dans le flou pendant un certain temps, on ne savait pas exactement comment ça allait évoluer, si les élèves allaient pouvoir quand même le passer en présentiel ou pas. Il y a eu ça, il y a eu voilà, la question de l'évaluation, d'autant que nous, elle est très importante. En lycée professionnel, on a des contrôles en cours de formation, en plus des épreuves terminales du bac que toutes les filières passent. Et ça, normalement, ça se fait sur l'année. Il y a une partie des CCF qui avait déjà été passée dans l'année, une autre qui n'avait pas encore été passée. Il a fallu réfléchir à la façon dont on allait valoriser les apprentissages des élèves et leurs acquis et comment on allait faire, etc. Donc, et il a fallu réfléchir à ça par matière, donc c'était un gros bazar. Ouais.
Alors Emma, elle a évoqué à l'instant, il y a les étudiants en niveau d'études supérieures ont été obligés de passer leur diplôme, donc de manière dématérialisée comme aux Beaux-Arts certainement, où il y a eu des QCM à gogo pour les partiels. Ça a été quelque chose de relativement contraignant pour les étudiants. Oui, tu veux préciser quelque chose?
Après, il faut savoir, en tout cas, moi je peux parler pour les écoles d'art, en tout cas en France. On n'a pas tous été logés à la même enseigne, c'est-à-dire que on s'est tous contactés en fait sur des plateformes où on a eu des discussions à plein d'échelles, quoi, politiques, enfin plus personnelles, enfin voilà, et de savoir comment un peu tout le monde vivait ça et voilà, savoir comment en fait les diplômes étaient gérés dans chaque école, et ça a pas du tout été la même chose partout en fait. Nous, on s'est retrouvés à Bordeaux à avoir un diplôme assumé sous forme dématérialisée, comme je disais tout à l'heure, peu importe les moyens de chacun, enfin en essayant plus ou moins de s'adapter à des nouvelles contraintes, voilà, exactement, mais voilà, ça laisse toujours des gens sur la touche, quoi. Et il faut savoir qu'il y a des écoles d'art en France où ça a pas du tout été comme ça. Il y a eu des diplômes qui ont été délivrés d'office, ou alors sur le contrôle continu, ou alors qui vont être des diplômes déplacés. Enfin voilà, il y a différentes sortes de solutions qui ont été trouvées dans chaque école, quoi.
Et du coup, c'est quelque chose, c'est une solution qui a été adoptée pour les élèves de terminale, c'est-à-dire que le bac a été finalement délivré d'office. Alors toi, Camille, il me semble que tu travailles aussi avec des terminales. Est-ce que ça a été facile de poursuivre ces 3 mois d'enseignement avec eux? Est-ce qu'ils ont suivi un petit peu? Parce que déjà, c'était pas évident d'arriver à rassembler tout le monde sur les plateformes, sur Internet, Est-ce que justement avec les terminales, ça...
Alors, oui, il y a effectivement, alors on y reviendra aussi, je pense, mais la question de la fracture numérique est un gros souci,
ça,
évidemment.
Abordons-la maintenant. Hein, ça...
Ah, pourquoi pas si, alors, si, si. Alors après, c'est vrai que je pourrais en reparler un peu après, parce que ça, c'est, pour le coup, ça a impacté vraiment tous les élèves et pas que les élèves.
Parce que moi, je parlais de ça aussi, entre autres, quand je disais ça, des inégalités, je parlais entre autres de ça.
Nous, sur le lycée de Sabre, on estime que 40% des élèves ont été impactés par la fracture numérique. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'elle prend plusieurs formes. Ça peut être des élèves qui n'ont pas d'ordinateur à la maison du tout, qui ont une connexion Internet très très limitée, qui sont dans une famille nombreuse et il y a un ordinateur pour, je sais pas moi, 5 ou 6 enfants, plus les parents qui télétravaillent. Enfin voilà, ça a été compliqué. Certains travaillaient directement avec leur téléphone aussi, donc en termes de... Voilà, pour visionner les contenus, tout ça, c'était pas évident. Et donc, effectivement, après, il y a eu un énorme travail fait par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et je voudrais saluer notamment le travail de la vie scolaire qui a fait un travail de titan sur les deux lycées. Hein, là, je parlais de ça parce que j'avais ce chiffre-là en tête, mais c'est valable pour les deux lycées. Où la vie scolaire s'est démenée pour appeler toutes les semaines les familles, les élèves dont on soupçonnait qu'ils pouvaient être en décrochage ou les élèves qui rendaient pas forcément régulièrement le travail pour essayer de comprendre d'où ça venait. Et ils ont fait un très, très, très gros travail à ce niveau-là. Pour ce qui est des élèves de terminale, alors moi, à titre personnel, j'avoue que je leur ai laissé un peu un espace de respiration, on va dire, parce que ma matière... je refuse des discours. Enfin, je me défends toujours pour dire que c'est une matière aussi importante que les autres, parce que ça, c'est un truc qui n'est pas toujours évident, parfois, selon les promos, selon les filières, à faire entendre. Mais là, c'est plus qu'ils avaient déjà passé le CCF avec moi, du moins la plus grosse partie, qui était une partie pratique et qui comptait pour 16 points sur 20, sur la note finale. Donc on a trouvé un arrangement, on l'a converti en une note sur 20. Et il restait les épreuves terminales avec les autres matières d'enseignement général, il y avait les matières techniques. Ils ont été un peu sous l'eau très vite, je pense, parce que les enseignants ont envoyé pas mal de contenu assez vite. Et moi, je me suis dit que voilà, ils allaient avoir besoin un peu de trouver un équilibre, de pas être sous l'eau complètement. Et en fait, j'ai eu peu d'échanges avec eux. Mais alors, c'est vrai que... Pour ce qui est des individus, chacun a eu un peu sa façon de vivre le confinement. Il y en a pour qui c'était très difficile parce qu'il n'y avait plus la vie sociale aussi amenée par le lycée. C'est quand même un microcosme, le lycée. C'est une société en soi. On apprend à vivre en groupe, etc. Et puis on a ses amis, etc. Il y en a pour qui ça a été très dur à cause de ça. D'autres, au contraire, qui finalement se retrouvaient dans le rapport individuel prof-enseignant, même à distance, où ils pouvaient peut-être un peu mieux se concentrer sur les cours. Après, c'est vrai qu'il y a eu un petit effet de délitement quand on a su, évidemment, que le bac allait être évalué en contrôle continu. Là, d'un coup, les collègues ont eu beaucoup moins de retours, étonnamment. Et il a fallu les tenir à flot jusqu'au bout. Mmh. Ça n'a pas toujours été évident. Ça, c'est pas faux. Voilà, on ne peut pas non plus... Je les aime bien, mais il faut être honnête. Bon...
Et le bac, ça aurait dû se tenir cette semaine, du coup, du 17 au 24 juin. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale, une petite page d'autopromo, et qu'on se retrouve d'ici quelques minutes pour poursuivre cette discussion. Ça marche ?
Très bien.
D'hier à aujourd'hui, le meilleur de toutes les musiques, c'est sur MDM. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace and seeds of hope. Seeds of pace, pine and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you suck? How can you spoil them? How can you trade them? How can you grow? Seeds of sorrow, seeds of terror, landscape, seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of stone. Seeds of underneath the summer lies and living, seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so? MDM, votre radio locale. MDM, c'est aussi de la musique. MDM. MDM. MDM, plus proche de chez vous.
11h33 et nous sommes de retour sur les ondes de Radio MDM en direct avec deux invités en studio. D'un côté, Emma Labarthe. Alors je vais peut-être le préciser hein, pour celles et ceux qui l'ignoraient, mais il s'agit de ma petite sœur qui est en troisième année à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux et qui vient de passer son diplôme de façon dématérialisée. Et à ma droite, Camille Bordier, professeure d'éducation socioculturelle au lycée professionnel agricole de Mugron et de Sabre. Et avec ces jeunes femmes, ce matin nous parlons d'éducation, d'art, de confinement et de tout ce que ça a pu changer et apporter cette petite période fort sympathique. Et donc j'aimerais reprendre cette discussion avec vous les filles en vous demandant si, en dehors de vos pratiques, hein, sur un plan extrascolaire, pourrait-on dire, quel rapport avez-vous entretenu avec l'art durant cette période ? Est-ce que le confinement a modifié votre relation avec, avec la culture avec...
Moi je dirais que renforcer, je sais pas, après disons que ça a pris d'autres formes. Ça a pris d'autres formes, mais disons que j'ai quand même beaucoup regardé d'art, j'ai beaucoup regardé d'artistes, je me suis renseignée, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, comment ils répondaient à, justement à la période, qu'est-ce qui se passait en fait autour de moi, et puisque du coup je pouvais pas être à l'école et avoir de retour de mes, comment dire, des retours directs de mes profs ou de mes potes, des élèves en fait. Il fallait quand même qu'il y ait un lien serré, quoi. Donc ça s'est traduit de plein de manières. Ça s'est traduit par les réseaux, ça s'est traduit par des articles, ça s'est traduit par de la lecture. Enfin, voilà, quoi. Après, j'ai quand même un lien très serré à l'art, quoi qu'il arrive. Donc, disons que j'en ai eu besoin. J'ai eu besoin de faire durer ce lien en dehors de l'école, quoi. C'était primordial.
C'est-à-dire que après voilà, nous on a quand même par nos parcours, nos activités respectives, on a déjà de fait un lien avec plusieurs formes d'expression artistique. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie et dont on pouvait de toute façon pas se passer pendant le confinement, je pense. Clair. Et il a fallu juste réinventer le rapport qu'on entretient à l'art pour certaines formes. C'est que alors après c'est-à-dire que à titre personnel, moi, effectivement, il y a des activités que j'ai pas pu pratiquer. Moi, je suis aussi chanteuse et leader du groupe Unbreaker, pour ceux qui nous auraient aperçus au Café Musique, tout ça. Voilà. Et j'ai pas du tout chanté à titre personnel pendant le confinement parce que j'avais pas trop l'espace pour. J'aurais pu m'enregistrer, mais pas le matériel qu'il fallait. Voilà. C'est un truc qui m'a un peu, que j'ai un peu laissé de côté. Pour autant, ce que ça a amené quand même le confinement, sans trop que ce soit volontaire, évidemment, c'est que ça nous a laissé beaucoup de temps aussi. Donc là, pour certains, dans le sens où, comme on repense peut-être aussi la façon de. Oui, non, bien sûr, quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'il y a beaucoup de monde aussi qui se retrouvait à l'arrêt alors qu'ils couraient partout, etc. Et c'est un petit peu mon cas, par ailleurs.
Oui, on a une autre approche du temps, une autre notion du temps.
Voilà, exactement.
Ouais. Et
donc, il y a des formes aussi, peut-être, d'expression artistique dont on s'était peut-être un peu détaché et qu'on a redécouvert. Je sais que j'ai lu pas mal, moi, pendant le confinement. Et moi qui venais de me mettre à la guitare aussi, j'ai essayé de travailler ça un peu plus régulièrement et c'est une autre manière d'approcher ça, quoi, c'est sûr.
Parmi ces autres manières, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur ça parce qu'il y a eu les musées qui se sont déconfinés de manière numérique, enfin déconfinés, ils ont lancé des visites numériques très rapidement. Il y a eu énormément de films gratuits qui ont été mis à disposition, les plateformes libres d'accès, les concerts en live sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, le fait d'avoir mis tout ça en place très vite pendant la période de confinement pour donner accès aux gens à l'art, à différentes formes d'art, est-ce que ça a mis en exergue l'importance de l'art dans notre société, dans notre vie de tous les jours ?
Moi, j'aimerais pouvoir dire que oui, parce qu'effectivement, alors là, pour le coup, sans culture, les gens auraient vécu le confinement différemment et je pense qu'ils en ont quand même conscience. Maintenant, ce qui me sidère un peu, j'avoue, c'est que de fait, la culture soit pas un peu plus au centre des débats à l'échelle nationale et dans nos institutions, quoi. La culture a quand même été mise un peu à l'écart et les acteurs du secteur culturel sont restés dans le flou pendant très très longtemps et ils le sont encore actuellement, quoi. Moi, je pense que pour le coup, la question du secteur culturel, enfin de l'avenir du secteur culturel à l'heure actuelle devrait prendre bien plus de place dans l'espace public, justement parce que elle a été au cœur de nos vies, de nos occupations pendant cette période, quoi.
C'est clair. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, enfin, je vais pas me lancer dans ça parce que je veux dire, je m'y connais pas assez, mais en tout cas, ce que dit Camille, c'est important et c'est surtout vrai. Et c'était primordial, vraiment primordial, que ça soit abordé, que ça soit traité de manière très rapide et que y ait des accès à tout, enfin, au cinéma, aux séries, à la musique, enfin, à des lectures en ligne, parce qu'il y a aussi plein de maisons d'édition. Moi, je connais plus ce secteur-là. Il y a plein de maisons d'édition qui ont donné accès à des bouquins très importants. Il y a eu plein de choses qui ont été traitées très bien concernant la culture et l'accès en fait à la culture, qui est d'habitude pas aussi libre d'accès en fait. Et en fait, ça va peut-être aussi créer des choses sur l'accessibilité.
Les acteurs culturels aussi ont dû repenser complètement leurs pratiques, ouais, quoi, et leur façon de faire de la médiation culturelle. Mmh. Ouais. Moi, ce qui après me fait un tout petit peu peur, c'est la façon dont les modes de consommation de la culture, ouais, risquent d'évoluer. Moi, je crains un peu, pas complètement, hein, parce que je suis un peu optimiste aussi, mais je crains un peu que le tout numérique puisse, ouais, être une option envisageable pour tout un chacun et qu'on se prive de formes un peu plus directes. Après, je me dis, normalement, quand même, les gens qui, au moins une fois dans leur vie, ont assisté à un concert, sont allés voir un, ouais, spectacle, savent aussi l'ambiance particulière qui se dégage et le rapport, ouais, particulier qu'on a avec l'artiste, avec l'objet culturel, la performance, et trouvons que ça leur manque un peu quand même, quoi.
Ouais,
moi je pense à ça.
Ouais, moi je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que du coup quand t'as un accès facile en fait à une chose comme ça qui l'est pas forcément en règle générale, parce que pas tout le monde va au musée, pas tout le monde va au cinéma, ça c'est des choses qui sont, enfin, etc. Pas tout le monde ne lit en fait, en croyant aussi, enfin en pensant, et souvent c'est le cas, ne pas avoir accès à tout ça.
Ne pas être légitime.
Ou ne pas être légitime, exactement. Et je pense que du coup ça peut donner accès à, voilà, enfin, mmh, ça peut faire
toucher les publics,
ça peut, voilà, ouais, faire se saisir des personnes de cette manière là mais il y aura toujours, je pense, enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on soit prêt à cesser de se déplacer, à cesser d'aller, mmh, rencontrer ces lieux en fait, en direct. Je pense que c'est, même si peut-être on va vers ça, c'est quand même encore un peu loin, enfin, mmh, et tant mieux, parce que, mmh, mais voilà, je trouve qu'en tout cas donner un plus large accès, c'est, de toute façon, c'est toujours primordial en fait, mmh, de priver personne en fait de des choses, que ça soit pas en fait élitiste en fait, la culture, mmh, ça doit pas être élitiste, enfin, pour moi c'est le fondement en fait, c'est là où on se trompe depuis hyper longtemps en fait,
c'est peut-être une piste à explorer pour le fameux monde de d'après dont on a tant et tant parlé. On y vient au monde d'après. D'ailleurs, aujourd'hui, on est entré dans visiblement la troisième phase de déconfinement, vu qu'hier soir, Emmanuel Macron a tenu un énième discours quant à cette crise du coronavirus, et qui a été mixé là avec les mouvements antiracistes qui fleurissent un petit peu à droite à gauche, alors aux quatre coins de la planète, mais notamment en France. Et avec ce week-end de la nouvelle marche organisée par Assa Traoré pour le comité pour Adama, justice pour Adama, pardon. J'aimerais bien avoir vos points de vue à toutes les deux, sachant que vous parlez à la fois, vous travaillez avec la culture, avec la société, avec ce qui se fait au quotidien, qui peut influer sur votre travail. Comment vous regardez ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça?
Ouais, je suis en train de repenser à ce qu'on s'était dit toutes les trois quand on est allé au rassemblement en hommage à George Floyd il y a quelques jours de ça. C'est quand même deux pans d'actualité là qui se croisent et qui sont, ouais, très 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 denses. Et la période pour moi est un peu bizarre, quoi. C'est clair. On est dans un autre monde, hein. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses en place depuis très longtemps dans notre société, beaucoup de modes de fonctionnement, de modes de pensée qui sont en vigueur depuis très longtemps et qui vont être amenés à être complètement modifié là, il faut, ouais, qu'on ait un débat de fond sociétal, quoi.
Parce qu'il y a des choses en fait qui sont à éclater en fait depuis trop longtemps, et qui là c'est en train de se passer, parce qu'on est en train en même temps de donner la parole, ou alors des gens sont en train de l'apprendre en fait, même si on leur donne pas, et ça c'est hyper important. Et tout ce qui est en train de se passer maintenant, évidemment, ça, il y a des choses qui s'entrechoquent et qui vont pas ensemble, mais elles ont besoin de s'entrechoquer. Et voilà, la parole, elle a besoin d'être enfin les gens ils ont besoin d'être dans la rue,
donner à d'autres personnes peut-être.
Ouais, c'est là, c'est tout ce qui se passe, c'est hyper important. Il faut absolument pas dénigrer même la moindre petite action qui peut aller dans le sens où on va actuellement, je veux dire, au niveau du peuple qui se mobilise et tout. Enfin, c'est assez incroyable. Enfin, c'est, et il était temps.
Ça met en exergue, un point très très important, c'est le rôle clé de l'éducation. Et c'est-à-dire que là, on réalise que... Alors, déboulonner ou pas les statuts, ça, je ne sais pas. Peut-être la thérapie choc, tout ça, ça peut fonctionner parfois. Mais ce qui change fondamentalement les sociétés, c'est l'éducation, c'est la transmission, c'est la médiation. Et en fait, c'est expliquer aux gens.
Le partage.
Et je pense qu'il y a énormément de comportements, d'attitudes qui sont profondément ancrés dans les mentalités de tout un chacun. En France, je sais qu'il y a des propos, des choses dont plein de gens ne soupçonnent pas qu'ils peuvent être racistes. Et parce qu'ils ne comprennent pas forcément l'histoire historique aussi du racisme. Ils ne comprennent pas forcément le mot racisme qui a beaucoup été utilisé à tort et à travers, qu'on confond souvent avec discrimination, d'où l'apparition du terme racisme anti-blanc, alors que voilà, moi, je pense que ça n'existe pas. Mais voilà, en fait, il faut comprendre aussi toute l'histoire de la domination des Blancs sur les Noirs, etc. Il faut comprendre voilà, tout ce qui s'est passé pendant la traite des Noirs, etc. Il faut comprendre tout cet historique-là dans l'histoire de l'humanité pour comprendre pourquoi il y a certains comportements qu'on ne peut plus accepter et pourquoi certains comportements doivent être systématiquement sanctionnés aussi.
Est-ce que à la fois ce qui se passe actuellement et ce qu'on a traversé là, cette période à la fois de confinement, cette crise mondiale qui a touché toute la planète, est-ce que c'est des choses qui dans votre travail à chacune peut avoir une influence?
Alors oui, moi je pense parce que oui. Bon, de fait, alors moi je pense que je mets un peu les deux côte à côte, même si ça va finir par se rejoindre. Mais pour le Covid en soi, on n'en est pas sorti encore, l'épidémie de Covid-19, et ça a profondément changé la façon dont on travaille quand même, hein. même en plein déconfinement, on travaille plus du tout de la même façon. On continue la continuité pédagogique à distance avec la plupart de nos classes. Il y a un protocole sanitaire très très strict à suivre sur place. On continue les rendez-vous en visio, on en fait quelques-uns en présentiel, mais c'est encore timide. Et même pour la rentrée, on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir reprendre complètement comme avant, quoi. Il y a encore des contraintes qui vont émerger. Et après, pour ce qui est de tout ce qui se passe, alors tant là, par contre, ça se rejoint tant en lien avec l'épidémie de Covid-19 et les affaires George Floyd, Adama Traoré. Ça aussi, c'est comment dire? C'est quelque chose dont il faut absolument qu'on se saisisse, nous, en tant qu'enseignants, parce que c'est l'occasion de beaucoup étudier aussi la façon dont l'information est diffusée.
La transmission.
Et voilà, les contenus qu'on choisit de nous montrer et les points de vue qu'on choisit de nous exposer aussi.
C'est ça, ou la censure.
Dans ma matière, pour le coup, il y a tout un volet qui porte sur la communication, et notamment la communication médiatisée. Et c'est un des points les plus importants de ma matière, je dirais, c'est amener les élèves aussi à être capables de lire l'information de façon critique et avec du recul, quoi. Et c'est leur donner des clés de lecture de l'information et d'être capable de la trier. Donc c'est ça, l'idée, c'est de déconstruire des idées reçues, de les amener à vérifier les sources, etc. Et là, on a tellement de matériaux pour travailler ça, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu, c'est tant clair. Sur l'épidémie que sur, voilà, sur les affaires de violences policières, etc. Donc là, c'est un matériau très, très dense qu'il faudra absolument...
Mais là, c'est même de notre devoir. Entre tout ce qui est nié, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est dit, enfin voilà, il y a plein de choses à voir.
Et puis toi, Emma, ça t'a aussi quand même pas mal inspiré pour ton diplôme. Je sais qu'on on avait diffusé pendant la période de confinement, notamment un texte que t'avais écrit et enregistré. C'est l'épisode 17 de Confinement Voiture, si vous voulez. Et si vous n'avez pas encore écouté, allez l'écouter, c'est assez saisissant. J'aimerais bien finir avec vous sur une dernière question que j'ai posée depuis des mois. À tous mes interlocuteurs et interlocutrices, le fameux monde d'après dont on a tant et tant parlé, hein, comme je le disais. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que ça va exister? Qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit, ce monde d'après?
Vaste question.
C'est clair. C'est un monde où on se bat quand même pour... c'est hyper cliché ce que je vais dire, et voilà, mais c'est un monde où on continue de faire ce qui est en train de se passer là, actuellement à Paris, à Paris et puis dans les grandes villes. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est assez phénoménal quand même ce qui se passe, ou aux États-Unis, en Angleterre, continuer à lutter pour des choses pour lesquelles on devrait même pas lutter, en fait, qui sont
évidentes.
Et qui sont évidentes, pas si évidentes que ça, finalement, puisque, voilà, c'est un monde où on va vers des choses mieux, quoi. Des choses... positif, quoi.
Si ça peut amener des changements dans la façon dont on fonctionnait avant, ça va apporter du positif. Et c'est vrai que puisqu'on en est au fait de réfléchir à un monde idéal, disons que le monde idéal après, ça va être un monde où on réfléchit autrement nos modes de production et de consommation, je veux dire, ouais. À l'échelle sociétale. Parle pas que du domaine de la culture, etc. C'est-à-dire que je vois cette retraite forcée d'une très grande partie de la population a quand même aussi à l'échelle mondiale, a eu un impact positif sur l'environnement. On a vu que la Terre est en train de surchauffer et que notre façon de fonctionner ne marchera pas sur le long terme et nous met tous dedans, quoi. Nous précipitons tous dans le vide, là. Si on peut effectivement continuer un peu à trouver des moyens de laisser un peu la planète respirer et aller plus vers ça, réfléchir à la façon dont on consomme, le fait d'acheter, jeter, racheter, jeter, etc. Ben ça, ce serait quand même pas mal, quoi. Je me dis ça. Et si on pouvait aussi réfléchir un peu à notre rapport à l'autre autrement.
Ben voilà, mais de toute façon, c'est ce que j'allais dire. Moi, tout va ensemble, en fait, dans ces questions-là. Ouais. Enfin, là, on va pas sans l'autre, en fait. C'est toute une question de respect, en fait. Mmh. Voilà. De respect et de regard et de bienveillance, quoi.
Voilà. Et on en revient toujours à la même proposition de l'intersectionnalité et des luttes qui se rejoignent. Et je vous invite toutes et tous à vous intéresser de près, pardon, à l'intersectionnalité, alors qu'il peut être décrié effectivement, mais prenons-le du bon côté. Merci beaucoup Emma, merci beaucoup Camille,
merci d'être venue
parler école, diplôme et tutti quanti ce matin.